si vous hésitez entre un steak tartare et un steak à point, c'est pas une grande décision qui, c'est pas une décision qui va avoir un impact sur votre vie. Maintenant, il y a d'autres décisions, comme par exemple de gros achats, qui peuvent avoir une conséquence énorme sur la vie de votre famille, qui peuvent ou être propulser tout le monde vers la bénédiction, ou alors il peut y avoir des gros achats qui peuvent mettre tout le monde dans un gouffre. Il y a des décisions comme se marier avec telle ou telle personne. Et la Bible nous parle de ces grands moments de décision. Et quand on est dans, plus la décision est importante, plus on a intérêt à savoir ce qu'il faut décider. Parce que ne pas décider, c'est décider. Vous vous souvenez peut-être, je ne vais pas redire tout le culte, hein, tout le message de la semaine dernière, mais vous rappelez qu'on a vu ensemble que les décisions donnent une direction à notre vie et la direction nous amène vers notre destinée. Vous dites, mais comment quelqu'un avec un tel potentiel peut avoir raté sa vie parce qu'il n'a pas pris les bonnes décisions? Quelqu'un ne va pas dans une mauvaise direction. Quelqu'un ne va pas dans une mauvaise direction parce qu'il est victime. On peut toujours s'en sortir. Mais on va dans une mauvaise direction et on finit là où on ne voudrait pas finir, uniquement à cause des mauvaises décisions que nous prenons. Et quand il s'agit de prendre des décisions, Dieu ne veut pas que l'on tire à pile ou face. Dieu ne veut pas non plus qu'on aille voir notre horoscope. Hein, si vous avez étudié un petit peu ce qu'est l'horoscope, en plus c'est bidon cette histoire-là. Ça n'a même pas de base scientifique. Non, Dieu veut que tu aies une assurance dans ton cœur. Et la dernière fois, ce que nous avons vu, c'est que les décisions doivent venir du cœur. Elles ne peuvent pas venir de la tête. Je ne peux pas toujours décider en fonction de ce que je vois. Je ne peux pas décider en fonction de mes émotions. Et si vous êtes quelqu'un d'émotionnel cette année, c'est-à-dire normalement quelqu'un d'émotionnel, c'est quelqu'un qui est en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Et on ne sait jamais comment va être cette personne. Hier, on l'a quitté, ça allait bien. Et entre-temps, il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, si vous voulez, quelqu'un qui est émotionnel, c'est quelqu'un qui va décider en fonction de ses émotions. Moi, j'ai connu des gens qui ont été incapables de garder un travail. Parce que quand il y a quelque chose qui se passait, les émotions prenaient le dessus et la personne était incapable de garder un travail. Et on s'est dit, mais seulement, les émotions, on va étudier ça plus tard, mais les émotions ne sont pas là pour nous amener à décider. Elles sont là pour suivre la décision que l'on a faite. Ce qui est différent, quelqu'un qui est conduit par ses émotions, c'est quelqu'un qui va être soupolé. Vous savez ce que c'est, une soupolée? C'est quelqu'un qui monte très vite et vous rabaissez le feu, clac, tout redescend. Alors, quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui est soupolé, c'est quelqu'un qui va décider par impulsion. C'est quelqu'un qui perd des amis aussi vite qu'il s'en fait. C'est quelqu'un qui perd un travail presque aussi vite qu'il en a. C'est quelqu'un qui va faire des achats, qu'il regrette après, il passe son temps à regretter. Celui qui est impulsif, il passe son temps à regretter. Je dis bien que normalement, c'est quelqu'un qui est seul. Parce qu'on n'arrive pas. Vous avez déjà été en voiture avec quelqu'un qui conduit par accélération et coup de frein? Je ne suis pas quelqu'un qui suis malade en voiture. Normalement. Je tiens bien la route et avec un petit tempérament breton, je veux dire que en bateau, normalement, je ne suis pas malade. Mais Il m'est arrivé de me trouver en voiture avec quelqu'un qui appuie sur l'accélérateur et voit un oiseau passer, paf, freine, qui va tourner à gauche. Et tout d'un coup, se rappelle que c'est à droite, ne regarde ni derrière, ni sur les côtés, paf! Et on entend derrière. Et on passe notre temps avec des frayeurs, on passe notre temps avec des hauts le cœur. On sort de là, on est... Bon, ça c'est en voiture. Avec un peu de chance, on n'est pas marié avec cette personne. Mais imaginez qu'on soit marié avec cette personne et qu'on vive avec ce rythme à la maison. Vous parlez de haut le cœur, vous? Bon. Vous dites, pasteur, là, à qui tu t'adresses? Ben, je m'adresse à toi, hein. C'est-à-dire à tous ceux qui sont devant moi et surtout à ceux qui écoutent la cassette aussi. Parce que 2007, il ne s'agit pas de prendre des décisions n'importe comment. 2007 nous amène, va donner une direction à notre vie. Et 2007 va nous amener vers notre destinée. Donc il s'agit d'être responsable des décisions que l'on va prendre. Il ne s'agit pas de prendre des décisions et d'accuser quelqu'un parce que ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, c'est ta faute. Il fallait prier. Je l'ai dit la semaine dernière. Tu n'avais qu'à prier, tu n'avais qu'à te mettre devant Dieu, entendre de Dieu, prendre tes décisions et assumer les conséquences. Aujourd'hui, dans une société où c'est la faute de tout le monde, et c'est surtout pas la mienne. Mais tout le monde est responsable de ma vie, tout le monde est responsable de mon standing de vie, tout le monde est responsable de mes humeurs. Ce qui est bizarre, c'est quand les gens font la tête au saut du lit, on se dit, attends, qui t'as passé la nuit là, qui est responsable? Et nous les chrétiens, il faut que nous soyons des gens qui sommes fermes, établis, enracinés, sur qui on peut compter. Des gens qui tenons la route et qui ne prenons pas des décisions n'importe comment, sur le coup de l'humeur, sur le coup du temps, sur le coup de... Personne n'est concerné? D'accord. Alors, si nous avons donc vu la semaine dernière que les décisions se prenaient du cœur et qu'il fallait décider de décider, c'est-à-dire... Ne laissez personne décider à votre place. C'était la semaine dernière. Ne laissons... Est-ce que tu veux répéter après moi? Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de mes choix. Je suis responsable de mes émotions. Je suis responsable de ma destinée. Ok, d'accord. Alors, cette semaine... Nous allons voir quelles conditions du cœur faut-il pour que Dieu puisse nous guider. Parce que on a vu la semaine dernière, le Seigneur guide. Le Seigneur, non seulement a un plan pour toi, mais il veut te conduire. Et Dieu ne force pas. C'est-à-dire que Dieu va te montrer le chemin, mais il va te laisser y aller. Sur son chemin, il va t'accompagner. Sur ton chemin à toi, ces systèmes débrouillent. Dieu peut toujours, 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 toujours récupérer les pots cassés. Il peut. Mes amis, ça coûte. Ça fait mal, ça fait perdre du temps. Alors pourquoi pas prendre la bonne décision tout de suite? Ok, première condition pour que Dieu... nous parle. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 14. Alors, je réalise qu'il y a ici un sens qui est dans le contexte du parler en langue. Hein, tout à l'heure, nous avons eu ce chant en langue et c'est tout à fait scripturaire puisque la Bible nous dit dans Éphésiens que nous devrions nous entretenir nous-mêmes par des cantiques, par des chants nouveaux. Et une manière d'avoir un chant nouveau, eh bien, c'est un chant en langue, un chant qu'on n'a jamais chanté avant et qui est carrément inspiré par Dieu. Mais j'aimerais retenir votre attention sur le verset 10. Il est dit « quelques nombreuses ». que soient dans le monde les diverses sortes de langages, aucun n'est inarticulé. Je vais m'entraîner davantage. Pour Noël, ma sœur m'a notamment offert un petit livre d'articulation. Je vais vous dire que j'en ai encore besoin. Dans la version, j'ai pris une autre version de la Bible et j'ai regardé dans la version Darby. Il y a je ne sais combien de genres de voix dans le monde et aucun n'est sans son distinct. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de choses. Et quand on a une décision à prendre, plus on entend de choses, moins on sait ce qu'il faut faire. Il y a 35% des personnes qui disent « Oui, oui, moi, à ta place, je le ferai. » Le problème, c'est que tu n'es pas à ma place. Il y a 40% qui disent « Non, 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 ne le fais pas. » Et le reste dit « Moi, je te donne mon avis. » Et l'autre dit « Moi, j'en sais rien. » Alors, donc, quand il y a des gens, c'est une des raisons pour laquelle on doit vraiment accepter la responsabilité de notre vie. C'est parce que quand on ne veut pas assumer cette responsabilité, on essaie de la faire porter à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on va demander l'avis de tout le monde. Et l'avis de tout le monde, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Encore une fois, si vous avez besoin de l'avis de quelqu'un, n'allez pas le demander à 15 personnes. D'abord, la première chose, allez devant Dieu. Ensuite, parler à des personnes qui sont matures, qui ont une expérience de la vie. Je n'irai pas demander à un enfant ou un jeune homme de 15 ans un avis sur une question qui va engager toute la famille. Donc, demandons à des personnes qui sont à même de nous donner un conseil qui tienne la route. Encore une fois, il viendrait à l'idée de personne d'aller demander à un mécanicien l'avis sur les pièces d'un moteur de voiture. Je change ou je change pas? On va demander à la bonne personne, au docteur. D'accord? S'il y a un problème de cœur, on va chez un cardiologue. Maintenant, très souvent, les gens ont des difficultés à prendre des décisions qui sont tranchées, des décisions qui sont claires, ont des difficultés à amener leur vie comme un bateau dans la vers la bonne destinée, parce qu'ils ont le cœur qui est encombré, comme un placard dans lequel on a tout fourré. Alors, dans leurs dents, ils entendent l'avis des mille et une personnes qu'ils ont consultées. Pourquoi on consulte tant de gens? D'abord parce qu'on n'a pas confiance dans notre relation avec Dieu. Et puis aussi parce que quelquefois, eh bien, si jamais ça ne marche pas, on a envie de se retourner contre quelqu'un. Et ça, ça n'est pas chouette. Je vais vous dire, dès que vous surprenez en train d'accuser quelqu'un de la décision que vous avez prise, ce message a été préparé, hein, il y a pas mal de temps de cela. Eh bien, retenez-vous, dites, oulala, non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Maintenant, regardez avec moi dans Matthieu 11. Qu'est-ce que Dieu est celui qui parle, mais pour qu'on prenne une décision, il va falloir qu'on ait un cœur qui soit léger, un cœur qui soit limpide et un cœur qui ne soit pas encombré. Quelquefois, il y a des placards qui existent et quand on les ouvre, il y a tout qui nous tombe dessus. Parce qu'on n'a pas pris le temps de mettre les choses à sa place, on n'a pas pris le temps de les ranger, on n'a pas pris le temps peut-être de dire non, c'est pas là que ça devrait aller ailleurs. Ben, je vais vous dire, il y a quelque chose qui va encombrer le placard de votre cœur, c'est ce qu'il y a dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Jésus dit « Venez à moi ». Il n'a pas dit « Allez vers Pierre, Paul, Jacques, Philippe ». Et je comprends qu'on ait besoin d'aide. Il y a des problèmes qui nous dépassent. Et faut être honnête avec soi-même. Quand on a besoin d'aide, on a besoin d'aide. D'accord? Si on est dépassé par un problème et qu'on est en train de couler, hey, allons vers quelqu'un qui va nous aider. Mais si on sait, on peut s'en sortir, eh bien, faisons-le aussi. Mais Jésus a dit, comment ? Il a dit, venez à moi, c'est-à-dire lui. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et vous, c'est-à-dire acceptez ma volonté. C'est ce que Jésus dit. Acceptez ma volonté. Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions. C'est-à-dire, il nous montrera que faire. Car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est-à-dire que quand tu as des décisions à prendre et que tu as le repos dans ton âme, que tu as le repos dans tes émotions, pourquoi ? Parce que tu n'es pas en train de courir après ta propre volonté. Parce que tu es en train d'écouter ce que le Seigneur a pour toi. Tu es en train de suivre ses instructions. Et sur le chemin que Dieu a pour toi, la vie n'est pas pesante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de couac. Mais même dans ces problèmes et dans ces couacs, on a un cœur qui est léger. Et on peut regarder également dans Marc chapitre 4. Marc 4, verset 18, il nous est dit que la parole de Dieu est semée dans différentes terres, c'est-à-dire dans différents cœurs. D'autres ont reçu la semence parmi les épines. Vous savez qu'il peut y avoir des épines dans un terrain ? Alors, si vous semez sur un terrain qui est plein d'épines, alors la semence dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que c'est une semence qui est incorruptible. Si dans notre cœur, il y a des épines, vous allez dire, c'est quoi les épines ? On va voir ce que c'est là, c'est marqué. Mais si nous semons la parole dans un cœur qui est plein d'épines, il nous est dit ici, ce sont ceux qui entendent la parole, c'est-à-dire entendre, que ce soit dans un message de culte, vous entendez la parole en ce moment, que ce soit pendant votre temps personnel avec Dieu, ou que ce soit quand Dieu te parle, tu es dans ta voiture, tu es en train de conduire, et tout d'un coup la voix de Dieu vient et tu entends. Si ton cœur est plein d'épines, écoute ce qui va se passer. Ce sont ceux qui entendent la parole, verset 19, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses, ce sont des gens qui veulent à tout prix s'enrichir. Au lieu de suivre les principes de Dieu et de laisser Dieu les élever, ce sont des gens qui courent après l'argent par leurs propres moyens. Et l'invasion des autres convoitises étouffe la parole et la rend infructueuse. C'est-à-dire que si dans ton cœur, tu as des soucis, il n'est pas dit des problèmes. Il y a une différence entre avoir un problème et un souci. Tu peux avoir un problème sans avoir de souci. Comment ? Eh bien, si tu as un problème, tu en parles à Dieu et tu lui demandes de te montrer dans la parole, ou tu demandes à un chrétien plus mature de t'aider à connaître dans la parole, ok, qu'est-ce que la parole de Dieu dit de cette situation ? Montre-moi un verset qui couvre mon cas. Et quand on voit ce verset-là, on libère notre foi et on dit, eh bien, je refuse de me faire du souci. Dieu n'a jamais dit qu'on n'aurait pas de problème. Mais en tout cas, il nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Si Dieu dit ne t'inquiète de rien et que tu t'inquiètes, tu pèches. Et pourquoi il nous dit ne vous inquiétez de rien ? Parce qu'il sait, ici c'est écrit, que les soucis, les inquiétudes étouffent la parole de Dieu. Si tu as une terre et que tu laisses, que tu sèmes et que tu laisses, vous avez remarqué que les mauvaises herbes poussent plus rapidement que les plantes normalement. C'est-à-dire que si dans ton cœur, tu as reçu la parole de Dieu, Dieu t'a parlé, et que tu laisses les mauvaises herbes, des inquiétudes, des soucis, des convoitises pousser, toutes ces choses vont étouffer la parole. Et la parole ne pourra plus porter de fruits dans ta vie. Donc, pour éviter que la parole ne porte pas de fruits dans ta vie et que tu aies un cœur qui soit meuble, un cœur qui soit une terre fertile, un cœur qui soit léger, un cœur qui ne soit pas encombré par les soucis. Qu'est-ce que tu fais à chaque fois que tu as un problème? Tu en parles à Dieu et tu te débarrasses de ces inquiétudes. Tu te débarrasses de la peur. Tu ne pourras peut-être pas te débarrasser du problème. Mais Dieu te débarrassera de ton problème à condition que tu refuses de t'en inquiéter, que tu refuses le doute, que tu refuses la peur. Ça, Dieu ne peut pas le faire à ta place. Lui, il peut s'occuper de ton problème, mais ton cœur, c'est à toi de le garder. Protège-toi des soucis, protège-toi de la peur, protège-toi des inquiétudes, protège-toi du doute. Comment ? Fortifie ta foi. La foi vient, comment ? En entendant la parole de Dieu. Donc, une des manières de pouvoir prendre des décisions qui soient saines, qui soient bonnes, qui fassent mouche, eh bien, c'est notamment d'avoir un cœur qui est léger. Donc, ne demande pas à 150 000 personnes son avis, parce que tu auras 150 000 opinions. Mais, quand tu as demandé à Dieu son avis, qu'est-ce que tu fais? Alors, si tu demandes à quelqu'un d'évaluer cette situation, parce que tu as d'abord parlé à Dieu de toutes ces choses, pendant que la personne te donne sa réponse, tu écoutes dans ton cœur. Ah, ça correspond. Ou alors, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Vous voyez comment ça marche? Mais je vais vous dire, si vous mettez en pratique ce que vous entendez là, vous allez arriver vers la destinée que Dieu a pour vous. Alors, deuxième chose pour garder un cœur qui est léger, un cœur qui n'est pas encombré, c'est que quand Dieu t'a parlé, tu fais immédiatement ce qu'il te dit de faire. Je vais vous lire ce qu'il est dit dans le psaume 119, au verset 57. David dit « Ma part au Éternel, je te le dis, ma part, c'est-à-dire c'est à moi, ma part, c'est d'observer ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car je garde tes statuts. » Je suis remontée au verset 56. Verset 57, je reprends. « Ma part au Éternel, je le dis, c'est d'observer tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, fais-moi grâce selon ta promesse. » Écoutez bien le verset 59. « Je réfléchis à mes voies et je ramène mes pas vers tes préceptes. » C'est-à-dire que quand je sais ce qu'il faut faire, je ramène mes pas vers ce qu'il faut faire. Et ensuite, verset 60. Je me hâte, je ne diffère pas d'observer tes commandements. Il n'y a rien de plus embrouillant que de remettre à plus tard ce que l'on sait devoir faire. Les gens les plus confus que j'ai jamais rencontrés sont ceux qui ont entendu clairement la voix de Dieu à un moment. Clairement, clairement, clairement. Et qui n'ont rien fait, qui n'ont pas pris de décision. Dis à ton voisin, ne pas décider, c'est décider. De ne pas décider. Ne pas décider, c'est décider de ne pas décider. Il y a des gens qui disent, « Oh, moi, je ne décide rien, hein, je laisse faire. » Non, tu es en train de décider de ne rien faire. Différent. Différent. Maintenant, moi, je vais vous dire, quand Dieu nous dit de faire quelque chose, que ce soit écrit dans sa parole ou qu'il nous le dise dans notre cœur directement, Dieu tient toujours compte des temps. Toujours, toujours, toujours. Moi, je me souviens d'une personne, vous m'avez entendu citer cet exemple parce que je le trouve dramatique, j'en ai mille malheureusement en tête, Mais celui-là, il m'a tellement marqué sur le moment que jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas encore oublié. Cette personne à qui Dieu avait dit, parce qu'elle était appelée à cela, hein, pour vous, ce serait autre chose si vous n'êtes pas appelé à ça. Dieu avait dit, va à l'école biblique. Et moi qui étais son pasteur, j'avais ça à cœur. Donc, j'ai partagé et j'ai dit, écoute, est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour toi ? La personne me dit, non, je sais que je dois y aller. Moi, je ne suis pas là pour diriger votre vie. D'accord ? Donc, si je partage quelque chose avec vous, vous devriez évaluer devant Dieu si c'est juste ou pas. Donc, cette personne, allez à l'école biblique. Et normalement, je devrais vendre mon appartement maintenant. Écoutez, le temps était parfait pour vendre cet appartement-là. Et la personne a dit non, non, je ne vais pas le faire. Je sais que je dois le faire, mais je ne vais pas le faire parce que je veux que ma fille vienne avec moi à l'école biblique. Et moi, je ne comprenais pas ça. J'ai dit, mais tu viens de me dire que Dieu t'a dit d'aller à l'école biblique et toi, tu es en train de mettre une condition. Tu es en train de changer la volonté de Dieu. Mais j'y vais, si Dieu te dit d'aller maintenant, c'est le meilleur pour vous deux. Et puis attention, c'était une enfant majeure, c'était pas une enfant. Hein. Dieu est quand même quelqu'un qui fait les choses correctement. Et la personne a dit non, je sais ce que je dois faire. Je vais le faire plus tard. Entre-temps, est arrivé quelqu'un avec qui elle a commencé à faire sa vie hors des principes de Dieu. Il est mort, lui. Elle est devenue tellement malade qu'aujourd'hui, elle n'arrive plus à marcher. Sa fille vit en concubinage. Elle n'a plus rien à voir avec le Seigneur. Et l'appartement, quand cette personne a voulu le vendre, personne n'en a voulu. Parce qu'elle avait perdu son travail à cause de cette maladie, elle s'est retrouvée avec des charges qui étaient trop hautes pour elle et a dû réduire énormément son style de vie, son standing de vie. Vous ne croyez pas que Dieu savait cela ? Vous ne croyez pas que Dieu savait que le marché allait changer ? Vous ne croyez pas que Dieu savait ça ? Vous ne croyez pas que si elle avait été là où Dieu lui demandait d'aller, encore une fois, pour elle c'était l'école biblique, mais c'est pas pour tout le monde comme ça, pour elle c'était. Si elle s'était avancée dans la volonté de Dieu, moi je vais vous dire, aujourd'hui sa fille est responsable, mais sa fille aurait marché avec Dieu. Elle a un appel sur sa vie, cette jeune, je vous explique même pas comment. Sa fille aurait marché avec Dieu, sa fille aurait été bénie. Elle, s'il faut, aurait rencontré son mari là-bas. Et certainement, elle aurait vendu son appartement et aurait retiré le meilleur prix. Et je ne crois pas que la maladie nerveuse qu'elle a vécue, elle l'aurait eue dans la volonté de Dieu. Elle ne l'aurait pas eue. Alors, évidemment, toutes les mauvaises décisions ne mènent pas à quelque chose d'aussi dramatique que cela. Hein, quand même. Mais il y en a où il vaut mieux dire, tu sais Seigneur, je vais marcher avec toi. Peu importe si c'est populaire, si c'est pas populaire, peu importe si je sais quelle est la volonté de Dieu, je vais la faire, je vais garder un cœur léger, je vais faire en sorte que je ne me laisse pas envahir par les soucis, par les convoitises, mais je vais garder un cœur qui est léger. Ne remettons pas à plus tard. Parce que sinon, eh bien, plus on remet, et plus la voix humaine prend le dessus sur la voix de Dieu. Et Dieu, lui, il parle toujours. Mais il y a d'autres voix qui sont plus fortes que lui, que sa voix à lui. Alors, une chose que l'on sait quand on marche avec Dieu depuis quelque temps, c'est que quelquefois les gens disent, tu sais, pasteur, je n'arrive plus à entendre la voix de Dieu. Je n'arrive plus à l'entendre. Une des raisons, c'est parce qu'ils n'ont pas fait la dernière chose que Dieu leur a dit de faire. Et tant qu'on n'a pas fait ce que Dieu nous a dit de faire, pourquoi voulez-vous qu'il nous dise ce qu'il y a d'autres choses à faire. Donc, quand on est bloqué, il faut se dire, OK, marche arrière, qu'est-ce que Dieu m'a dit de faire? Quelle est la dernière chose que Dieu m'a dit de faire? Je savais dans mon cœur et je ne l'ai pas fait. Quelle est la dernière chose? Alors, ça peut être différente, ça peut être quelque chose. Vous savez, si on ne peut pas obéir à ce que Dieu nous dit dans des détails, on ne pourra pas obéir à Dieu dans les grandes choses. Ce n'est pas possible. Quelquefois, les gens disent, « Oh, tu sais, pasteur, moi, je donnerai à Dieu quand je pourrai donner telle grande chose. Et... » Non, 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 ça ne se fera pas. Pourquoi? Parce que dans les petites choses, on n'est pas en train de faire. Encore une fois, moi, je ne sais pas ce que Dieu a pour vous. La destinée que Dieu a pour moi, je la connais. Et je suis responsable de ma destinée. J'aurai des comptes à rendre à Dieu pour ma vie. Mais je vais vous dire une chose. J'ai l'intention d'aller exactement, de terminer exactement là où Dieu veut que je termine. Et il faut décider ça une bonne fois pour toutes. Faire notre vie avec Dieu, mais aller jusqu'au bout avec lui et réussir. La sensation d'après... Ça vous arrive quelquefois, après une bonne journée de travail, on dit « J'ai transpiré, alors là, j'ai fait des tas de trucs, mais waouh, oh la satisfaction d'avoir bien travaillé !» Eh bien, on peut avoir la même satisfaction arrivée à la fin de notre vie. De dire, tu sais, j'ai ramé quelquefois. Quelquefois, ça a été difficile. Quelquefois, ça a été laborieux. Quelquefois, j'ai dû me battre contre moi-même. Mais j'arrive à la fin de ma vie. Et j'ai fait la volonté de Dieu. Et on entendra la voix du Seigneur. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Et en un instant, toutes les pleurs, en un instant, la fatigue de la vie, tout ça en un instant disparaîtra. Il y a une chose que je ne veux pas amener avec moi devant le Seigneur, c'est des regrets. Et je vais vous dire, il vaut mieux prendre il y a des gens qui ont peur de prendre des décisions parce qu'ils ont peur de prendre des risques. C'est impossible. Si tu veux avancer dans la vie, tu auras toujours des risques à prendre. Dieu pourra toujours te récupérer d'un risque que tu as pris et tu es tombé. Je ne parle pas du péché, hein. Je parle d'une mauvaise décision. Si tu as un cœur pur devant Dieu, tu signes le mauvais papier. Tu dis, allez, je prends un risque, Dieu se sortira toujours là. Ça ne veut pas dire que tu ne laisseras pas quelques plumes de ta fierté et peut-être quelques restrictions financières, ou ça dépend. Mais Dieu te sortira toujours de là. Mais quelqu'un qui ne prend pas des risques, tu es bloqué, tu es arrêté, c'est le statu quo dans ta vie. Dieu ne peut pas t'aider. Il ne peut pas t'aider. Tu sais, si un cheval avance et elle avance sur le mauvais chemin, tu peux toujours le prendre et dire non, viens demi-tour, fais demi-tour, on va dans cette direction-là. Mais si un cheval est bloqué, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas nulle part. Tu sais qu'il y a un verset qui parle de cela. C'est après que je voulais le lire, mais... Il est dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, c'est-à-dire têtu. Les gens têtus, on ne peut rien leur dire, même pas Dieu. Ça, c'était le psaume 32, verset 9. Alors, si vous vous rendez compte qu'il y a des choses que Dieu vous a dites et vous ne les avez pas faites, dans ces cas-là, vous savez ce qu'on fait pour remettre de l'ordre dans un placard? On sort tout. On le vide. On sort tout. Hein, quand on change l'événement, c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait après? On nettoie peut-être à l'eau de Javel les étagères. Ou on nettoie et ensuite on remet tout. on remet tout en ordre. Donc, si tu ne l'as pas fait, reparle-en à Dieu. Dis, ok Seigneur, où est-ce que j'étais la dernière fois que tu m'en as parlé? Donc, il faut un cœur léger, c'est-à-dire pas encombré, et il faut que ce soit un cœur qui ne désobéisse pas, c'est-à-dire qui ne passe pas son temps à remettre. Oui Seigneur, plus tard, plus tard, plus tard. Oui, mais plus tard, les circonstances auront changé plus tard. Même quelque chose, quelquefois comme une dépendance quelconque. Je ne sais pas moi, un chrétien par exemple qui fume et qui a été délivré, je l'ai vu mille fois ça, le Seigneur a délivré des chrétiens de la cigarette ou délivré les chrétiens de, ça pourrait être autre chose, je prends cet exemple, mais bon. Et la personne retombe là-dedans et la personne c'est non, normalement, c'est, il faut que je m'arrête toujours. Et la personne cède dans son cœur et dit non, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Vous savez, Dieu est le Dieu du détail. Est-ce que vous savez, par exemple, je crois que j'ai pris l'exemple la dernière fois, Dieu a dit le huitième jour, vous circoncirez les enfants mâles. Alors là, Seigneur, huitième, septième ou neuvième, après tout, Seigneur, t'es un petit peu quand même, hein, du moment qu'on obéit. Voilà, là c'est comme ça qu'on raisonne, nous les êtres humains. Du moment qu'on obéit, après tout, tu devrais être content, Seigneur, non? C'est pourquoi Dieu a dit le huitième? Parce que c'est là que la cicatrisation se fait le plus rapidement et le mieux. Pas le septième, pas le neuvième. Et quand Dieu te dit, par exemple, si quand Dieu dit « sème maintenant », c'est parce qu'il sait exactement le temps de la moisson. Si Dieu dit « fais cela maintenant », c'est parce qu'il sait exactement pourquoi le marché peut changer. Vous dites « ouais, mais c'est pas une bonne affaire ». Laisse Dieu, Dieu est le Dieu des affaires. Quand Dieu dit « maintenant, vends maintenant, vends maintenant ». Quand Dieu dit « achète maintenant, achète maintenant ». Où est-ce que tu es Dieu? Tu sais tout? Bon, deuxième qualité de cœur qu'il faut pour pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas sous le coup de l'impulsion, mais des décisions qui sont saines, il faut un cœur humble. Psaume 25, verset 9, nous dit « Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » Un humble, ce n'est pas quelqu'un, un humble, ce n'est pas un paillasson, contrairement à ce que les non-croyants ça joue les religieux. Quelqu'un qui est humble, c'est pas quelqu'un à qui tu balances des claques. On fait ce qu'on veut dans la vie. C'est quelqu'un qui n'a pas de matière grise, il réfléchit pas. On peut lui dire ce qu'il veut, il s'en moque. Il est humble. Il a jamais besoin de rien. Il n'a que du rouge sur son compte, mais il est humble. Écoutez, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Quelqu'un qui est humble, ça veut dire quelqu'un qui dépend de Dieu. Ce n'est pas un paillasson, c'est quelqu'un qui dit, « Seigneur, je ne sais pas ce qu'il faut, mais je sais que toi, tu as. » Ça, c'est quelqu'un qui est humble. Maintenant, il nous est dit qu'il conduit les humbles dans la voie de la justice. Il enseigne aux humbles la voie. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui peut dire à Dieu, « Je ne sais pas, mon Dieu. » Je ne sais pas. C'est-à-dire, si tu sais tout, Dieu ne peut pas te dire quoi que ce soit. Vous connaissez des gens à qui on ne peut rien apprendre? Ils savent tout, ils savent tout. Vous essayez de leur parler, « Ah oui, mais... » Non, non, mais je sais, je sais, je sais. Vous n'avez pas... Vous commencez la phrase et la personne, « Clac, 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 oui, mais je sais, je sais, je sais, je sais. » Et tu dis bon. Alors, tu dis oui, mais ça c'est quelque chose que peut-être je dis aux gens, mais je ne dis pas ça à Dieu. Oh, que si tu dis à Dieu. Seulement, tu t'en es jamais rendu compte. C'est la même chose avec Dieu. Dieu essaie de te dire quelque chose. Oui, mais. Si tu sais tout, Dieu n'a rien à t'apprendre. Comment est-ce que Dieu pourrait te conduire si tu sais tout? Donc, on voit l'importance d'un cœur humble. Et c'était là mon fameux verset que j'ai lu tout à l'heure. Psaume 32, verset 9. « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. » On dit, je crois, ici dans le sud, la testadura, c'est ça? C'est difficile de comprendre la volonté de Dieu tant qu'on n'a pas mis notre volonté sur l'autel. Tu sais ce que tu fais sur un autel? Tu tues. Seigneur, c'est ce que je veux. Tu risques de l'avoir, mais une fois que tu l'as, tu risques de ne plus aimer ce que tu as. Tu sais, la pire des choses, c'est que Dieu te donne uniquement ce que tu veux. Si Dieu te donne ce qu'il veut, c'est au-delà de ce que tu peux imaginer, demander, penser. Quand tu as ce que tu veux, tu n'as que ce que tu vois. Et une fois que tu as ce que tu as voulu, il faudra vivre avec. Donc, en 2007, et décidons, je ne vais pas hésiter, 150 000 fois, je vais prendre une décision après avoir suivi ces principes-là. Un cœur libre des soucis, un cœur libre de la convoitise, un cœur qui dit « oui Seigneur », quand tu me dis quelque chose, c'est « oui Seigneur ». Et un cœur qui est humble, Seigneur, c'est « je dépends de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur ». Plus on grandit avec le Seigneur, plus on apprend à dépendre de lui. C'est l'inverse de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Aux enfants, on veut leur apprendre à se débrouiller seuls. On veut les équiper afin qu'ils soient des adultes qui décident d'eux-mêmes. Bien sûr, en leur donnant tous les principes. Mais avec le Seigneur, plus on grandit, plus on dépend de lui. Et c'est magnifique. Un cœur qui est humble, c'est la condition sine qua non pour entendre la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Dieu fait à celui qui n'est pas humble? La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Je sais, je sais. Ouais, je sais, je sais. Non, mais je sais. Je sais. Oh, je sais. Je sais, je sais, je sais, je sais. Peut-être que les jeunes, ils peuvent... comme une fois, ils n'ont pas dit à leur père, « Ouais, je sais, je sais, je sais !» Mais si tu savais, tu ne l'aurais pas fait. Voilà, alors on parle de quoi, là? Tu veux qu'on mesure ton savoir, hein? Et nous, on fait la même chose, quelquefois, avec le Seigneur. C'est-à-dire que si Dieu nous résiste, eh bien, il ne nous donnera aucune direction. Et alors là, bonjour la frustration. Le Saint-Esprit conduit les enfants de Dieu en témoignant à leur esprit. Dieu communique avec son peuple pour le conduire de la confusion à la paix, de l'hésitation à la hardiesse. Rappelons-nous que les décisions déterminent la direction et la direction détermine notre destinée. Et enfin, troisième point, pour vraiment pouvoir prendre des décisions, il faut être honnête et vouloir ce qui est juste. Certains veulent une. Le psaume 119, toujours dans ce psaume, je vous conseille de relire ce psaume. Hein. C'est le psaume le plus long de la Bible, mais il est magnifique. Et priez ce psaume pour vous-même. C'est David qui a prié à Dieu, mais appropriez-vous ces mots. Au lieu que David dise « oui, c'est je », dites « oui, c'est moi, Marie-Hélène, je, moi ». D'accord? Le psaume 119, verset 104, « Par tes statuts, je deviens intelligent. Aussi, je déteste toute voie de fausseté. » Vous savez, Dieu est celui qui connaît nos motifs, nos désirs secrets. Il veut nous les donner. Mais la raison pour laquelle on veut certaines choses, quelquefois la raison même est mauvaise. Vous vous rappelez ce qu'il nous est dit dans Jacques, Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres convoitises. Et il faut vraiment être honnête avec Dieu. Il faut demander ce qui est juste. Vous vous rappelez de Simon le sorcier dans la Bible? Il voulait le don du Saint-Esprit, mais pourquoi? Pour montrer qu'il avait de la puissance. Il voulait pas le don du, il voulait pas le don du parler en langue. Il voulait pas être baptisé. Il avait vu les autres disciples qui étaient en train d'amener les gens dans le baptême du Saint-Esprit. Il a vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Il a entendu des gens qui parlaient en langue. Et lui était il était dans l'occultisme. La Bible disait qu'il s'appelait Simon le sorcier. Il était dans l'occultisme. Et il n'avait pas un cœur qui était pur vis-à-vis de Dieu. Et il a dit, « Ouh, mais moi aussi je veux ce don-là. Je voudrais même l'acheter. Je voudrais ce don, pourquoi ? Parce que je vais me mettre en évidence. Je vais montrer aux autres que j'ai de la sagesse, que j'ai de la puissance. » Et l'apôtre l'a repris sévèrement en disant, « Mais il est hors de question qu'il en soit ainsi. » Et donc, quand nous demandons à Dieu la sagesse pour prendre des décisions, assurons-nous que nos motifs sont purs devant Dieu. Et ça, il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez examiner ces motifs-là. Alors, je résume d'abord, les décisions se prennent du cœur et on a compris que Dieu veut nous aider à prendre des décisions. Mais on a compris aussi que pour ça, il faut avoir un cœur qui est limpide, qui est léger, pas encombré. Il faut avoir un cœur qui est humble, c'est-à-dire accepter qu'il nous parle, accepter qu'il nous enseigne, accepter qu'il nous montre. Ça, c'est une des choses que j'amènerais le plus les enfants à faire, à garder un cœur qui est malléable. C'est-à-dire qu'un enfant qui résiste, vous lui résistez, vous ne cédez pas. Pourquoi ? Parce que plus tard, il fera du chantage à Dieu, mais Dieu lui résistera. Lui résistera. Et également, donc, troisième point, il faut absolument que nous nous assurions que nous sommes honnêtes et que les décisions que nous prenons, c'est parce que c'est juste. C'est juste. C'est juste. Alors, cette série, j'ai encore un autre message sur les décisions. Et on va voir des choses tout à fait pratiques. Là, j'ai parlé du cœur hein, ce soir. Mais la prochaine fois, je vais vous parler de choses qui seront un petit peu plus pratiques. Mais je pense que pour cette année 2007, eh bien, il est vraiment important que l'on ne panique pas devant des choses difficiles, devant des catastrophes que l'on va peut-être voir, que l'on ne panique pas non plus en entendant peut-être d'autres chrétiens qui ont pris de mauvaises décisions. N'ayez pas peur des mauvaises décisions si vous avez un cœur pur. Dieu vous rattrapera toujours. Maintenant, si on a pris une mauvaise décision intentionnellement parce que ça nous arrangeait sur le moment, t'assumes. Mais Dieu est celui qui veut nous aider. Il y a des risques, hein? Mais si tu ne veux pas prendre de risques, tu feras du surplace. C'est-à-dire que dans 20 ans, eh bien, je pourrais te reprêcher ce message-là et tu n'auras pas bougé dans la vie. Alors, qui a envie de perdre des années? Non, non, oh là là, non. D'accord? Devant l'enthousiasme général, écoutez, on va clore.